Je vous invite maintenant à entendre l'un des trois textes qui nous sont suggérés pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 35.
Je lis la parole de Dieu. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demandait : au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent : certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. Et vous, leur demandait Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre lui répondit : tu es le Christ. Alors Jésus leur ordonna sévèrement de ne parler de lui à personne. Jésus se mit à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les spécialistes de l'Écriture, qu'il soit tué et qu'après 3 jours, il ressuscite. Il disait cette parole très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en, passe derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. »
Il y a très longtemps, 500 ans ou à peu près, nos prédécesseurs, ceux qui sont à l'origine de nos églises au temps de la Réforme, avaient beaucoup de choses à faire, mais en particulier une ambition, une obsession, rétablir pour ceux de leur temps une relation véritable avec Dieu, sans dépendre d'une institution qui vend peut-être un salut clé en main, et surtout sans s'attacher à des doctrines figées et périssables qui ne rassurent qu'un temps. La première des deux obsessions a été à peu près entendue, la deuxième un peu moins. Mais c'est toujours ce même effort que nous poursuivons aujourd'hui chaque fois que nous ouvrons ce vieux livre que nous venons de lire avec des mots nouveaux, parce qu'il est toujours possible de le dire avec les mots du temps. Découvrir des questions ouvertes et qui exigent un long travail, plutôt que des réponses toutes prêtes, destinées à alléger notre charge mentale, comme on dit, au quotidien, mais qui nous déçoivent assez vite. Peut-être parce qu'elles ne nous ont demandé aucun effort. Le texte que nous venons de réentendre, lui aussi, parle de cette relation assez difficile à mettre en place, cette recherche d'un tête-à-tête, d'une conversation avec Dieu, ce désir de savoir ce qui nous fonde. C'est le sens de la question que Jésus adresse aux disciples. Tout commence donc par cette question importante. Qui suis-je aux yeux des autres ? Alors d'abord, ça n'est pas la seule question, il y en aura une autre qui suivra, qui sera encore plus importante pour les disciples et pour nous aussi. Mais pour cette seule question, cette première question, vous conviendrez que c'est très différent de « comment suis-je perçu ?» ou bien « que dit-on de moi ?» C'est un peu plus profond que cela. Jésus n'est pas en train de s'inquiéter de sa réputation ou du « qu'en dira-t-on ?» de sa surface médiatique ou autre. C'est sa réalité même qui est en question. Qu'est-ce que les autres disent de moi ? Que je suis vraiment ? Et à ce moment-là, Les disciples en ont plein leur panier, plein leur musette. Les réponses fusent. Hein. C'est Jean-Baptiste, c'est Élie, c'est un des prophètes, au choix, hein, n'importe lequel, tu n'auras qu'à choisir. Qu'on confonde Jésus avec Jean-Baptiste passe encore, puisqu'il lui est contemporain. On le comprend facilement, mais on a plus de mal à comprendre la confusion avec des personnages du passé, voire toute une lignée de prophètes. On sent qu'ils ont cherché à se simplifier la vie. Et puis, les disciples, surtout, ne risquent pas grand-chose à rapporter les réponses des autres, même si elles sont approximatives ou mauvaises. Mais surtout, les confessions de foi approximatives et faites par procuration n'ont pas l'air de tarir les questions. Au contraire, ça déclenche tout de suite la deuxième. Elle les atteint de plein fouet. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? C'est un engagement personnel qui vous est demandé, une réponse élaborée par chacun, un travail, un effort, ça vous prendra du temps. Fini la facilité des réponses apportées par les autres. Fini le confort des certitudes du passé, Élie, les prophètes, Jean-Baptiste, etc., etc. C'est à ce moment-là que Pierre se décide à prendre la parole. Et il donne une réponse qui est, cette fois-ci, personnelle. Elle rejoint le présent. Elle ne convoque pas les pères fondateurs ou un passé glorieux. Elle rejoint le présent et aussi engage l'avenir de tous. Tu es le Christ. Celui qui était attendu est là maintenant, puisque Christ, ça veut dire Messie, celui qu'on attend de pied ferme et longtemps s'il le faut. Tu es le Christ. Celui qui était attendu est maintenant là. Tout est pour le mieux alors. Eh bien non. Jésus surprend encore ses disciples en commandant sévèrement, et pas seulement à Pierre, hein, à tous, de ne rien dire à personne. Quelle surprise ! Pourtant, nous savons bien pourquoi Jésus fait cette réponse. Le titre de Messie paraît simple, c'est un tout petit mot. Ça ne doit pas être bien difficile à porter, ça doit être à peu près clair, à peu près explicite. Nous savons, nous, que ça n'a jamais été le cas. Le statut de Messie se prête à beaucoup de malentendus. On peut facilement vous prendre pour un réformateur religieux parmi d'autres, le successeur d'un roi prestigieux rêvant de reconquête, etc. Ce n'est pas si simple que ça d'être un Messie. Jésus souhaite passer par un autre chemin, plus difficile, est certainement moins glorieux. Il le fera constamment d'ailleurs. On veut l'attraper à d'autres endroits, par le bras comme ça. Venez, faisons de cet homme notre roi. Il se dégage, passe à travers la foule, esquive et s'en va. Ce n'est pas ce rôle-là qu'il va jouer. Pas facile d'être un Messie. Mais pourquoi tout doit-il commencer par une question ? Et en particulier celle-ci, « Qui dites-vous que je suis ?» Elle semble posée à tous, en même temps. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une question générale comme ça, et celui qui se sent d'y réfléchir pendant 5 minutes saura bien répondre à la place des autres. C'est à chacun d'entre nous qu'elle est posée. « Qui dites-vous ? Que dis-tu que je suis ?» C'est même la seule question qui se pose à nous. Qui est-il pour nous ? Qui est-il pour moi ? Avec une question la plus importante de toutes, nous n'avons plus qu'à parcourir le monde pour trouver les réponses qui correspondent. Et c'est en cela que consistera notre vie, en Église et en dehors. On ne nous demande pas d'acquiescer à un catéchisme, mais de trouver une réponse personnelle. Nous sommes bel et bien renvoyés à notre travail, à nos responsabilités. Évidemment, les disciples, surtout chez Marc, sont toujours un peu lourdeaux, un peu obtus, ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ce qu'on attend d'eux, et ils nous agaceraient presque, nous-mêmes, qui sommes plus malins, bien sûr. Cette incompréhension des disciples pourrait nous faire sourire. On a vraiment envie de dire de temps en temps « Quelle bande de lourdeaux !» Mais ne rions pas trop vite. parce que les difficultés des disciples sont les nôtres. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Le tragique du monde, le sens profond des choses, sommes-nous allés jusqu'au bout de ces questions-là? Peut-être pas. Ce sens des choses si difficile à trouver, incompréhension aussi de notre côté. Ne rions pas trop vite. Ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas dans les certitudes que se trouve la foi. C'est dommage, la Bible nous l'affirmerait massivement et une bonne fois, on s'en trouverait bien une ou deux, une petite collection pour s'y fier, et puis ce serait terminé. On n'irait pas plus loin tellement, mais on aurait l'impression que c'est terminé. C'est tout à fait autre chose qu'on nous demande, un bâton à la main, ne jamais s'arrêter ou presque, et reprendre sa route. Ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas dans les certitudes que se trouve la foi. Elle est tout entière dans nos questions qui ouvrent des possibilités quasiment infinies. Vous savez comment ça marche. Vous répondez à une question, il vous en arrive deux ou trois autres sur les bras, et ainsi de suite. La vie, quoi. C'est pour nous une très bonne nouvelle, cette demande de travail ou de fatigue. Plutôt que de rester assis ou bien installé dans des certitudes, comme on peut l'être sur un fauteuil ou dans un canapé, nous avons tous devant nous le mouvement d'une quête permanente. Relisez ce passage à tête reposée, vous verrez le nombre de fois qu'on utilise le mot « chemin ». Dans les versets que nous avons lus, Jésus interroge les disciples en chemin. Ce n'est pas une petite école philosophique où on est à genoux au pied du maître, où on attend pieusement que l'enseignement du maître nous arrive comme ça dans les oreilles. C'est un maître qui parle, mais il faut le suivre en plus, il faut marcher en parlant sans perdre son souffle. Jésus interroge ses disciples en chemin, c'est en chemin aussi qu'ils disent leurs incompréhensions, toujours sans perdre leur souffle. Tous sont constamment en mouvement, comme s'il était impossible de s'arrêter. Ça n'arrête pas. Si ce que nous appelons la foi est un mouvement permanent, comme ça, sans pause durable en tout cas, alors rien ne peut l'arrêter. C'est peut-être ça qui est le plus rassurant, la plus grande source d'espérance pour nous. Nous ne pouvons pas la domestiquer, ni la mettre sous verre. Et c'est bien cette foi qui fait dire à Pierre que Christ est présent. Tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui nous était annoncé depuis longtemps, c'est toi, là, maintenant. Pour Pierre, ce n'est pas un objet de collection ou un pieux souvenir, c'est cet homme qui est en face de lui. Et c'est une invitation à le suivre. Pierre le répétera d'ailleurs plusieurs fois, « Je te suivrai partout où tu iras. » Il faut être prudent avec les promesses qu'on fait, mais la volonté de suivre, pourtant, était bien là. La bonne nouvelle que nous venons chercher ici, dans nos communautés, dans nos églises, dans la nôtre, n'est pas un petit supplément. Ce n'est pas un bouche-trou, une manière de combler un manque ou de satisfaire un petit peu sa curiosité, quand on y pense, quand on a le temps. L'objectif est plutôt de renouveler notre comportement quotidien par une vraie dynamique de vie, parce que c'est dans ces choses qui sont toujours en cours, qui se font, que se trouve la foi. Quand on pense l'avoir identifiée, qu'on la met dans sa poche, nous l'avons déjà perdue. C'est sûrement parce que ce qui change la vie est le fait de mouvements, de rencontres, qu'il n'est pas nécessaire que cela soit spectaculaire. Ça n'est souvent pas le cas d'ailleurs, mais sans cette confiance, nous ne pouvons rien faire. N'oublions pas surtout que cette question s'adresse à nous. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Les disciples n'en sont pas à leur premier étonnement, mais l'étonnement des disciples ce jour-là vient du fait que tout ce qu'ils pensent ou pensaient solide, hérité du passé, dorénavant ne suffira plus. Il est beaucoup plus fécond de se tenir devant lui pour mieux le suivre et le faire avec notre flot de questions. Nous voici alors au commencement d'une année nouvelle, c'est notre culte de rentrée. Et nous avons certainement toutes sortes de questions qui nous passionnent et nous intriguent. C'est justement dans les années découvertes, les années passerelles, jeune théologie, et aussi chez les confirmants, que l'on vient avec des questions, qu'on se pose ces questions. C'est elles déjà qui nous ont mis en route, c'est elles aussi qui nous feront repartir à la recherche d'un début de réponse. Ça veut bien dire que nous sommes en route vers quelque chose d'essentiel pour nous. Et puisque c'est notre culte de rentrée, que nous sommes vraiment tous accueillis par ce texte qui, loin de nous inquiéter, nous donne la marche à suivre, hein, littéralement. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir aujourd'hui les jeunes de tous les groupes au seuil de cette nouvelle année pour leur dire ceci. Vous avez des questions, elles vous mèneront loin. Elles vous feront cheminer parce que vous avez tout à apprendre exactement comme nous. La foi, c'est exactement ça. Elle vous permettra de faire votre propre chemin. Sur ce chemin, vous savez, qui n'existe pas, mais qu'on finit par faire à force de marcher au même endroit. Et puis de creuser petit à petit des routes qui n'existent pas encore. Évidemment, il y aurait peut-être quelque chose d'un peu intimidant là-dedans, à prendre la route, surtout s'il faut le faire tout seul. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul. Christine, Viviane, Moustapha, Jacqueline, Francine et Magali seront justement là pour partager ce voyage avec vous, pas pour vous imposer leurs réponses, pour que vous vous en contentiez, mais vous aider avec vos propres questions, pour travailler sur vos propres réponses. Ils vous feront partager ce qu'est une église où la foi n'est surtout pas un tas de vieilles choses à garder dans une armoire, mais plutôt une excursion et une découverte. Alors vous qui êtes venus ici, pour apprendre, quel que soit votre âge, bon voyage à tous. Amen.